Au quotidien, 5e édition.
Bonjour, mesdames et messieurs. On est à la 2e édition de...
La deuxième édition
de Au quotidien, 5e édition. Je suis Yvan Deslauriers et...
Je suis Francine Forget.
Qui vont vous accompagner pendant la prochaine heure et demie de cette merveilleuse journée. On commence à croire qu'il va y avoir un printemps cette année.
Ah, mais il va en avoir un, ça je peux vous dire, parce qu'on commence à entrer dans le printemps. Alors, quand vous allez ressortir d'ici, Yvan, vous allez voir, il va faire pas mal plus chaud.
Oui.
Et ça va aller en s'intensifiant. On est vers une croissance du soleil.
Ça, j'en doute pas. C'est juste que le printemps a été annoncé le 21 mars. Et on est aujourd'hui, mesdames et messieurs, le 29 avril. Alors, ceux qui veulent se découvrir d'un fil, ça s'en vient. Et ceux qui n'ont pas rempli le rapport d'impôt, ça s'en vient aussi. On est accompagné de Mathieu Tessier qui nous ouvre ou ferme le micro, dépendant si on dit des choses intéressantes ou pas.
Moi, les micros sont souvent ouverts dans votre cas. J'ai rien à dire.
D'accord. Mais si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas.
Est-ce que c'est la censure comme on voit parfois au Oscar, mettons?
On n'a pas de quelques secondes de délai. Faut que je fasse ça en direct.
Non, mais je m'informe comme ça.
Mon Dieu, est-ce que je viens de m'approcher des Oscars, moi, non? Alors, c'est vraiment, vous avez l'atmosphère qui règne en onde présentement. On est bien loin de la semaine dernière où il y avait eu l'annonce du décès de Guy Lafleur. Alors, on s'en va plus vers une émission comme on veut vous les offrir les vendredis à l'avenir. Et on commence par nos faits saillants de la semaine, chère Francine. Qu'est-ce qui a retenu votre attention?
Et j'aime que vous commenciez par moi, Yvan, à Seigneur tout honneur, mais sérieusement, parce que je trouve que ça va dans la phrase, que ça va dans la suite de la phrase que vous venez de prononcer.
Okay.
Ça a l'air pas sérieux, mais je vais vous le dire, ça l'est, et j'ai des preuves. À la fin, je vais vous donner une référence pour que vous preniez ça au sérieux. Alors, vous connaissez ma curiosité, vous connaissez comment j'aime les choses un peu inusitées parfois. Alors, cette semaine, sur lapresse.ca, il y a un titre qui m'a accroché. Peut-on séparer un Oreo à la perfection?
On parle du biscuit, là.
On parle bien d'un Oreo. Pourquoi le crémage d'un biscuit Oreo? Il reste toujours du même côté quand on l'ouvre.
Oui, bon. Oui, c'est vrai.
Alors, il y a des étudiants du MIT. Alors, on se rappelle que c'est le Serious Massachusetts Institute of Technology, qui ont fait une série de tests et qui ont étudié la question. Ils ont mis à l'épreuve le fameux biscuit et ils ont constaté que la force requise, premièrement, pour séparer un biscuit, c'était l'équivalent d'ouvrir une poignée de porte. Alors, quand on tourne la poignée de porte, bien, ça équivaut à ça.
Donc, c'est l'énergie qu'on a besoin pour ouvrir une poignée de porte. C'est l'équivalent pour séparer un biscuit Oreo.
Exactement. Et moins le biscuit est frais, plus il est facile à séparer. Sérieusement, parce qu'on ne fera pas l'heure et demie là-dessus, mais pour faire leur expérience, ils se sont basés...
Mathieu va couper le micro. Là.
Oui, ils se sont basés sur la science de la rhéologie et qui, finalement, permet d'étudier la résistance des matériaux.
Oh, okay.
Je vous donne un site pour aller voir tout l'attirail qu'ils ont bâti, ainsi que les plans. Alors, le site, c'est GitHub, G-I-T-H-U-B. Vous allez dans l'engin de recherche et vous googlez Oreo Meter. Et voilà.
Meter,
oui.
OK.
Est-ce que vous voulez que j'enchaîne avec... Non, allez-y.
Vous devez me poser la question. Et vous, Yvan, votre fait saillant de la semaine?
Et vous, Yvan?
On commence notre relation.
Bon, hein.
Il faut établir les règles.
Bon, Yvan, soyons clairs. Qu'est-ce qui t'a allumé cette semaine?
Oh, on est rendu au tutoiement. Pour moi, j'ai eu la chance de participer à quelques émissions de Canal M cette semaine. Et j'ai parlé pas mal du défi Altergo, mais je ne m'entends pas parce que les gens qui participent au défi Altergo, que ce soit des professionnels ou que ce soit des étudiants, des élèves dans les écoles, on parle d'eux beaucoup une semaine par année. Et dans les deux dernières années, on n'a presque pas parlé d'eux à cause de la pandémie, évidemment. Alors, moi, mon fait saillant de la semaine, c'est le défi Altergo, les différentes activités, les différents sourires que j'ai pu voir en allant sur Internet des gagnants ou même, oui, surtout des participants. Je pense que tous ceux qui participent au défi Altergo en sortent avec un sourire fantastique. Je veux quand même vous souligner qu'aujourd'hui, le 29 avril, il y a du soccer, il y a du hockey ball, du hockey cosum, et du soccer encore, le soccer au primaire et du soccer au secondaire au centre sportif Claude Robillard. Il y a des championnats nationaux au rugby en fauteuil roulant. Ça, madame, c'est spectaculaire et ça frappe. C'est au Patro Villeray. Le Patro Villeray, c'est dans le bout de La Roche, me semble, puis Villeray ou quelque chose dans le style. Là. C'est autrefois, ça s'appelait le Patro Le Prévost. Il va y avoir du basketball en fauteuil roulant au centre sportif Édouard-Montpetit, du power chair soccer, c'est du soccer en fauteuil motorisé, au centre sportif Jean Rougeau. Ça, on a regardé, c'est sur de Normandin puis Jarry.
J'ai vérifié, en fait, oui. Pour l'adresse du Patro Villeray, c'est sur Christophe Colomb, le 73-55.
Un jour, je vous raconterai que mes premiers cours de natation ont été là.
C'est vrai?
Oui. Et au para-hockey, il va y avoir du para-hockey à l'aréna Howie Morenz. Mais ça, vous n'avez pas grand temps pour y aller parce que c'est de 10h à midi, puis vous allez nous écouter jusqu'à 11h. Hein, c'est un peu tassé.
Ils peuvent nous écouter en rediffusion.
Ah, mon Dieu! OK.
Ça va faire augmenter nos codes d'écoute.
Tout à fait.
On peut encourager ce genre de...
Comme si c'était bien important pour
nous. Bien Mathieu, c'est bien Mathieu de nous rappeler qu'on peut faire augmenter nos codes d'écoute.
Voilà mon fait saillant de la semaine. Et Francine, les parties de l'émission pour lesquelles tu seras responsable aujourd'hui.
C'est... Oui, alors mon cher Yvan, bien, je vais certainement avoir d'autres paractualités qui vont s'ajouter à celles dont vous avez fait état dans vos faits saillants. Je vais aussi m'entretenir avec Marcel Dugas, notre historien, qui va nous parler ce matin de la guerre civile espagnole. Du côté des chroniques technologiques. Bon, alors, évidemment, comme à l'habitude, il y a tellement de nouvelles ce matin. On va mettre de côté ce qu'on avait prévu et on va s'aligner plutôt sur l'actualité technologique. Alors, dans un premier temps, on va parler du nombre d'utilisateurs de l'Internet. Est-ce qu'il y a un plafond à ça? Et c'est intéressant de voir la situation, je vous dirais, macro-situation de l'utilisation de l'Internet. Il y a aussi, et ça vient tout juste d'être retweeté par Bruno Guglielminetti, c'est une étude très sérieuse sur Alexa qui vous espionne. On va voir à quelle fin.
Alexa nous espionne. D'accord. Moi, je connais Alexa parce que je vais garder des jumeaux une fois par semaine, puis Alexa est là. Alors, on lui dit, mets de la musique, enlève de la musique, allume les lumières, etc.
Mais là, vous allez savoir.
Je ne soupçonnais pas que je pouvais être espionné.
Oui, faites bien attention à ce que vous allez dire. De votre côté?
Oui, de mon côté, moi, je m'occupe des unes régionales avec Monique Kirois qui va s'occuper de l'Estrie. On a des unes à Québec et dans la région de l'Outaouais. Je vais parler avec Serge Hamelin. Je lui avais donné un devoir la semaine dernière de nous parler de gin sans alcool. Il a relevé le défi. Et s'il y a un peu de temps, il va nous parler des gros électroménagers. Le gros a été écrit en lettres majuscules. Et je parlerai aussi avec Vanessa Paré, qui est représentante de l'organisation Moelle épinière et Motricité Québec, qui va nous parler. Elle ne parlera pas de ce qui va se passer avec les membres pour la fin de semaine, parce qu'il n'y aura rien, mais elle va nous parler de ce qui va se passer la semaine qui va commencer bientôt. Alors, c'est le menu pour l'émission. Et tous les deux, on a trouvé la même chanson. Et pour faire plaisir à Mathieu, c'est aussi une reprise. C'est un duo et une reprise. Je couvre tous les plans.
Vous avez fait revenir jusqu'en 1998, mon cher Yvan, avec cette chanson.
J'ai fait ça.
Ben oui.
Et le chanteur et la chanteuse?
C'est Corey Hart et Julie Masse, je crois.
Je crois. Et l'original, c'était Jean-Jacques Goldman et une chanteuse que je ne connais pas qui s'appelle Sirima.
Alors, allons-y maintenant avec les unes, l'actualité Montréal. C'est comme ça qu'on a déterminé ça comme ça, mais dans le fond, c'est vraiment les unes habituelles des grands quotidiens. Alors, Le Devoir, la guerre en Ukraine, cette nouvelle est reprise aussi dans d'autres quotidiens, mais on a retenu l'article du Devoir, le secrétaire général de l'ONU visite Kiev sous les missiles. L'article de Jean-Louis Bordelot, en fait, nous dit que la capitale ukrainienne a été la cible de frappes de missiles jeudi soir, et c'était assez symbolique. Premièrement, parce que Kiev, depuis le déploiement de l'armée russe dans l'est de l'Ukraine, n'avait pas été bombardé, et ça coïncidait avec la visite du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Il y a plusieurs témoins qui ont constaté sur place, évidemment, qu'il y avait un bâtiment en feu. Il y aurait eu, semble-t-il, 10 personnes de blessés, selon une nouvelle rapportée sur Facebook. Et ces frappes, évidemment, ont choqué M. Guterres, mais on dit qu'il est en sécurité, on n'a pas à s'inquiéter. Toujours en une du Devoir, on parle de pagaille à Shanghai et on fait référence au coronavirus. Et on s'entretient avec un Québécois qui est au cœur du zéro COVID chinois. Encore une fois, Jean-Louis Bordelot signe cet article. On se rappelle que Shanghai, la ville la plus peuplée de Chine, la plus populeuse, n'est plus que l'ombre d'elle-même. 25 millions de personnes sont confinées à des domiciles depuis le début d'avril.
Oui, juste mettre les choses en contexte, là, Montréal et les environs, là, c'est 6 millions.
Oui, alors il y a un petit écart. Le but, évidemment, c'est de freiner l'explosion d'infections au coronavirus, ce qui plonge la capitale économique chinoise en plein désarroi. Donc, le quotidien de M. Pierre Morin, qui est un Québécois, qui a été joint dans son appartement, évidemment, c'est un confinement total, c'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir. Alors, contrairement à ce que nous, on a connu et pour lesquels certains ont trouvé que c'était épouvantable de nous imposer ça, mais là-bas, le seul prétexte pour pouvoir sortir est d'aller passer un test. Du côté du Journal de Montréal, on rapporte un fait divers dont on a déjà parlé, mais le grand titre dit que c'est une attaque gratuite sur une victime innocente. En fait, il y a deux jeunes hommes qui avaient attiré un entrepreneur dans un guet-apens et qui ont tiré à bout portant sur lui. Et il risque jusqu'à 10 ans d'incarcération. Alors, l'entrepreneur, M. Roberto Celli, hier, il était au palais de justice et il a dit ce qu'il a vécu le 5 avril 2019. Il a décrit, mais il est toujours dans l'incompréhension totale parce qu'il n'avait aucune raison, selon lui, d'être la victime de cette attaque. Ou toujours en une du Journal de Montréal, Ginette Renault, qui, incidemment, hier, a été nommée à 76 ans chevalière de l'Ordre de la Légion d'honneur. C'est la plus haute distinction honorifique de la République française. Mais le Journal de Montréal a retenu cette manchette à propos d'un autre sujet, en fait, Ginette Renault, qui laisse entendre qu'elle va chanter aux funérailles de Guy Lafleur. J'utilise le à bon escient laisse entendre parce que semble-t-il qu'on lui a dit de ne pas en parler, mais elle en parle quand même avec un petit sourire en coin et on dit que sa participation n'est pas encore confirmée parce qu'il y a des discussions avec la famille, mais ces discussions iraient bon train. Elle veut chanter aux funérailles parce que c'est un ami pour elle. C'était un ami pour elle et elle dit quand on se voyait, on avait toujours beaucoup de plaisir ensemble. Toujours à la une du Journal de Montréal, je souligne simplement la chronique de Mario Dumont qui est intéressante parce que, il dit que les Canadiens sont devenus une simple business qui n'aura probablement plus de vrais héros dans le futur. Mm-hmm. La presse plus maintenant a aussi relaté la non pas je m'excuse c'est pas le cas du côté de la presse plus on a parlé de signaux d'alerte 4 ans avant le drame de la mort de la fillette de Granby. Donc en 2015 la grand-mère de l'enfant a alerté la commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse dans un cri du cœur déchirant et la presse consacre une enquête à cette à ce sujet. On parle aussi de la rentrée qui coûtera plus cher. Donc, les vêtements, si on n'a pas remarqué, il y a eu une baisse dans le prix des vêtements, mais on nous avise qu'à la rentrée scolaire, ce sera temporaire, puisque il y aura une hausse, c'est inévitable, à cause, évidemment, du transport des matériaux, comme on retrouve, pas juste dans ce domaine-là, mais dans plusieurs domaines. Et enfin, je souligne la chronique de Rima El-Khoury, qui est revenue en force, qui parle de l'agression dont on a fait état hier à la FTQ et qui a conduit à la démission de Reynald Grondin, qui était président de la FTQ Construction.
Merci beaucoup. Petite correction pour la population de Montréal. La ville de Montréal, c'est à peu près 1,8 million, ouais. près de 2 millions. Puis la région métropolitaine de recensement, c'est près de 4. Nous en allons maintenant dans les cantons de l'Est parler avec Monique Kirouac. Bonjour Monique.
Oui, bonjour Yvan, bonjour Francine.
Bonjour Monique.
Alors, dis-nous qu'est-ce qui attire l'attention du côté des cantons de l'Est?
Ben, du côté de l'Estrie ou des cantons de l'Est, en effet, j'aurais pu parler.
Oui, il y a eu un débat là-dessus. Hein?
D'Ascot-Lennox. C'est un espace de 35 acres qui a été vendu par les Franciscains, mais je pense que ça va faire couler pas mal d'encre pendant un certain temps. Donc, j'y reviendrai un autre vendredi, si vous me gardez, si je prends pas trop de temps. Alors, j'ai décidé de me consacrer ce matin à un dossier de Jasmine Rondeau pour La Tribune, qu'elle a intitulé « De tomiphobia à la patrie ». Connaissez-vous bien l'histoire des toponymes estriens? Ou peut-être cantonien, c'est un débat qui aussi fait rage. Mm-hmm. Alors, ce qu'elle nous raconte, c'est que, bon, ben, il y a plusieurs cultures ont forgé le territoire de l'Estrie. En découle donc un impressionnant métissage de toponymes, des cantons anglophones qui sont maintenant prononcés à la française, des plans d'eau inspirés de mots abénakis déformés et de nombreuses municipalités rendant hommage à la mère patrie des colons qui les ont peuplés. Alors ce matin, je vais vous parler du lac Manfremagog.
Oh.
Alors ce grand lac de 102 km2.
Avec le monstre dedans.
Oui, c'est ça. Avait à l'origine été baptisé par les Abénakis Mamlabagak. C'est un mot signifiant à la grande étendue d'eau ou au lac vaste. Il faut rappeler quand même aussi, Yvan, que le lac a une partie au Vermont. Hein? Alors, il est transfrontalier. C'est plus petit du côté du Vermont, mais beaucoup plus large, plus facile pour la navigation, en fait. Alors, c'est par une déformation de ce terme que je donnais du terme abénakis Mamlabagak, les nombreuses variations qui ont été recensées par les historiens, qui en seraient arrivées au toponyme d'aujourd'hui. On connaît, comme vous le soulignez, le lac pour son légendaire monstre, Memfré. On raconte que ce serpent de mer à cornes qui vivait dans une grotte sous le mont AZ effrayait les Autochtones à un tel point qu'ils refusaient de s'y baigner. Et c'est un lac très, très profond. Il a un maximum de 107 mètres de profondeur à certains endroits. Un deuxième lac, le lac Massawippi, qui est plus petit, mais vraiment très joli
très,
aussi.
Très, très beau, oui.
En 18 km2, comparativement à 102 km2 pour Manfremagog. Alors, deux hypothèses circulent sur la provenance de ce toponyme et donnée à la fois à un lac estrien et à un petit hameau fondé entre Ayerscliff et Atlee par les loyalistes vers 1800. La version jugée la plus plausible par la commission de toponymie est celle qui le désigne comme un mot abénakis, encore une fois, signifiant « beaucoup d'eau claire ». D'autres plaident pour l'implication de l'algonquin Nazawipi, qui signifie « entre les eaux » pour désigner ce grand lac estrien à la forme qui rappelle un hippocampe. Alors voilà, c'était la petite chronique estrienne ou cantonienne.
Selon la toponymie.
Ben, selon le choix que l'on fera éventuellement entre ce terme administratif ou émotif.
Merci beaucoup, Monique. On s'en va maintenant dans l'Outaouais, où le ministre des Finances de l'Ontario, Peter Bethlehem Falvey, a déposé son budget annuel hier. Un document qui va mourir sûrement, presque certainement, en fait, au feuilleton, avant même d'être adopté par la Chambre, parce qu'ils s'en vont en élection. Dans ce dernier budget, il établit clairement les promesses électorales des progressistes conservateurs pour les années à venir et mise sur plusieurs investissements au chapitre des infrastructures, sauf à Ottawa, qui a été oublié par la province. Les francophones sont aussi restés sur leur faim. Très peu de mesures ont été ciblées pour les franco-ontariens. La présence policière à Ottawa en fin de semaine sera très visible avec l'arrivée dans la capitale de ce que certains ont baptisé le convoi de la liberté 2.0, soit une caravane de motocyclistes Rolling Thunder. Je sais que des gens de l'Outaouais sont très nerveux à ce propos. Et quand on va du côté de Québec, les Sœurs de la Charité s'entendent pour la vente de quelques 200 hectares. Québec s'est finalement entendu avec les Sœurs de la Charité pour l'achat de terres agricoles pour un montant de 28,7 millions. Ça va être utilisé pour un projet d'agroparc qui verra le jour dans les prochaines années. L'objectif est de faire de ces rares terres cultivables urbaines un vaste parc d'innovation agricole et de recherche agroalimentaire. L'Université Laval, de son côté, étudiera la place des femmes dans le sport. Il va y avoir un groupe qui va travailler à ce sujet-là. Pour l'instant, on dit qu'on présente des stratégies sur la place des femmes dans le sport et on plonge, mais on n'évalue pas les résultats, nous a résumé la professeure titulaire du département d'éducation physique et directrice du nouveau laboratoire d'études scientifiques sur l'iniquité sportive pour les femmes, Guylaine Demers. Notre rôle sera de comprendre et de documenter leur impact pour pouvoir multiplier leur pénétration. Et du côté de la politique, Québec d'abord perd un autre élu à l'hôtel de ville. On sait que le parti du maire Marchand était minoritaire au moment de l'élection et il y a trois membres de l'équipe adverse qui maintenant font partie de l'équipe au pouvoir. Donc, ils sont maintenant majoritaires à Québec. Alors, on se laisse pour quelques instants et au retour, il y aura la chronique consommation et la chronique histoire. Alors, à bientôt. À bientôt, Francine.
Vous écoutez Au quotidien 5e édition avec Yvan Deslauriers et Francine Forgette.
Chanteuse folk canadienne, mais d'origine polonaise, c'était Basia Boulat qui chantait Fables.
Une belle découverte pour moi.
Merci. La même chose pour moi, Yvan. Merci. Vraiment, là.
Mm-hmm. Mm. Alors, je vais faire des petites recherches après l'émission. Alors, Francine, vous vous souvenez, la semaine dernière, Serge était avec nous. Là, il est au téléphone présentement. Et on lui avait donné un petit devoir.
Vous lui aviez donné un sérieusement, Yvan, ça m'intéresse beaucoup tout ce qui est boisson sans alcool, alors j'étais d'accord.
Phew! Alors, chez nous, on en boit des gins sans alcool. Marie prend ça parce que, pour une question de santé, elle doit faire attention au sucre en particulier, et l'alcool en contient beaucoup. Alors... Serge, c'est à vous de nous démystifier d'abord les gins sans alcool.
Avec plaisir. Surtout que quand on avait le rhume autrefois, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait une ponce de...
Gin!
Oui!
Avec ou sans alcool?
Il n'y en avait pas de sans alcool à cette époque-là.
OK, alors c'est pour ça qu'on se sentait malade longtemps.
Ah, possiblement, oui.
Pour prendre les ponces souvent.
Oui, oui, oui. Alors moi, je vais vous parler donc du gin sans alcool ce matin, et grâce à la chronique que vous me permettez d'avoir à toutes les semaines, j'apprends des choses, c'est extraordinaire. La tendance est née en Europe il y a quelques années, et ça incite de plus en plus de micro-distillateurs québécois à proposer l'option de gin sans alcool. En 2020, imaginez-vous que on a fabriqué à Lévis un gin sans alcool.
À Lévis. Ouais. Pourquoi? Il n'y a pas de raison particulière à Lévis?
Non, mais le monsieur était là. C'est le président et fondateur de la distillerie des Appalaches à Lévis.
D'accord.
Fait qu'il a mis au point un gin sans alcool et il l'a appelé Alphonse.
Oh, pour, mon Dieu,
oui.
Alphonse Desjardins.
Ben oui.
Est-ce que c'était un gin aromatisé à quelque chose?
Ah ben oui. Alors les gins, là, c'est l'ingrédient phare, c'est le genièvre.
Oui.
Et c'est ça qui va permettre au gin sans alcool d'avoir le petit resserrement dans la gorge. Tu sais, quand on boit un gin avec alcool, eh ben il y a une espèce de... tu sais, ça serre, là, il y a quelque chose, tu sais, bon. Alors, pour reproduire ça, parce qu'en fait, un gin sans alcool, c'est de l'eau.
Oui.
Oui. Et on vend l'eau aussi cher que l'alcool. Ça, on s'est posé la question. Et on dit, ben, c'est parce que ça prend plus de temps, parce que, comme il n'y a pas d'alcool, pour que le goût soit un peu comme le gin, là,
oui, ça,
ben, ça prend plus de temps. Alors, ça a l'air que le temps, c'est de l'argent. Bon, voilà. Donc, c'est pour ça qu'une bouteille de gin sans alcool va se vendre autour de 30$.
Oui, mais il y a le côté festif quand même qui vient avec le plaisir.
Ah, oui. Alors, le gin, Alphonse, contient, entre autres choses, et c'est ça qui est intéressant, du thé du Labrador et des fleurs de sureau. Hein?
Oui,
tandis
Dieu.
Que le HP Jupon, Juniper propose deux produits qui est le classique.
Oups, on vous perd un peu là.
Et l'eucalyptus sont notamment à l'honneur, ainsi que le floral aromatisé à la rose, l'hibiscus, l'eucalyptus et la fleur de concombre.
Pour avoir essayé les deux, je ne saurais pas dire lequel que j'ai trouvé meilleur que l'autre. Les deux sont vraiment agréables au goût.
Ah, ben c'est bon à savoir. Et vous savez qu'il y a des tests prêts à boire québécois à base de gin qui ont été faits. Alors, ce sont des prêts à boire sans canette.
Oui.
Alors, la canette la moins chère et la meilleure, qui est sans conteste le champion de la dégustation, à l'arôme fin et prenant de concombre et à l'empreinte sucrée parfaitement équilibrée par l'acidité très rafraîchissante, un gin tonic prémixé exemplaire qui remporte tous les suffrages. Et chose étonnante, c'est aussi l'un des seuls produits sans alcool et aussi l'un des moins chers. Et il s'appelle, et j'ai nommé, Jardin Verde.
Voulez-vous répéter ça? On vous a perdu un petit peu, puis on prend des notes pour la fin de semaine qui s'en vient.
Alors, oui, vous m'avez perdu. À quel moment m'avez-vous perdu?
Quand vous avez dit le nom de cet élixir...
Ben oui, c'est Jardin Verde, mais en espagnol, ce serait peut-être Jardin Verde. Hein? Alors, Jardin Verde, ça s'appelle, qui est le gin tonic zéro. C'est lui qui remporte la palme. C'est merveilleux. Et c'est 4 canettes pour 10$, c'est le moins cher.
Ah, ben quand même, oui, c'est tout à fait abordable. Et puis, il va faire superbement beau en fin de semaine. Là, j'ai l'impression qu'on va essayer ça.
Terrasse, peut-être, parce qu'en fait, vous allez être à l'abri du vent.
Oui, bon. Tout à fait.
On annonce presque un 20 degrés dimanche.
Oui. Alors, c'est ça, il faut s'équiper là, pour faire face à cette température.
Bon, écoutez, un dernier conseil qu'on nous donne dans la revue Protégez-vous, à la page 25. Il reste que les spiritueux sans alcool sont à découvrir en cocktail et non en shooter, préviennent les fabricants. Ah. Seul, ce n'est pas bon. Tranche Jonathan Robin.
Robin, oui, Drouin, c'est
le nom. Les gins sont mélangés à du tonic ou autre mixture qu'ils dévoilent toute leur complexité et leurs arômes.
Oui, bon. C'est exactement comme ça qu'on a découvert ce liquide qui est vraiment surprenant.
Ben oui, alors voilà. Donc, c'était pour les gins sans alcool. Maintenant, il me reste quelques minutes.
Oui, puis je vous dirais peut-être... Oh, 4 minutes qu'on dit, 3-4. OK, allez-y.
Bon, alors là, l'autre sujet ce matin, ce sont les gros électroménagers. Alors, pour ceux qui ont besoin d'une laveuse, d'un réfrigérateur, d'une cuisinière et d'un lave-vaisselle, la revue Protégez-vous donne le meilleur choix parmi ces 4 appareils. Mm-hmm. Et le meilleur choix pour une laveuse à chargement frontal de marque LG, et on trouve ça chez Canadian Appliance, Corbeil et Tanguay. Alors, parmi les laveuses à chargement frontal de grande capacité, ce modèle obtient l'une des meilleures notes de l'évaluation. Tant au cycle normal qu'au cycle délicat, il élimine très bien les taches tenaces et les résidus de savon. Par ailleurs, cet appareil est l'un des plus silencieux, en plus d'être très facile à utiliser. C'est merveilleux. Il offre la plus grande capacité des appareils de sa catégorie. Cependant, il figure parmi les modèles les plus chers. Oui. LG est une marque fiable et appréciée des répondants au sondage. Et quel est le prix de cette merveilleuse laveuse à chargement frontal de marque LG?
D'après vous? 750$.
Non. 1700 beaux dollars.
Oh mon Dieu! Oui. On s'aperçoit que c'est pas moi qui fais le lavage chez nous. Hein?
Et il y a le réfrigérateur General Electric, largeur de 33 pouces. Parmi les réfrigérateurs, c'est le meilleur choix, le plus abordable. Il offre une température très précise et très uniforme. Il consomme très peu d'énergie tout en étant silencieux. Et l'appareil est doté d'une machine à glaçons interne, d'un contrôle de la température indépendant pour le congélateur et de tablettes anti-déversement.
Quelle merveille!
Serge, j'ai jamais entendu des descriptions d'électroménager aussi poétiques que la vôtre.
J'ai failli mettre de la musique en arrière.
Oui, oui. Mais malheureusement.
Alors, le prix maintenant, c'est moins poétique.
Oui.
C'est un petit 1500 beaux dollars.
OK, donc pour les deux, là, on s'en va sur le 3000 facile.
Oui, oui. Puis là, ben, vous n'avez pas fini. Vous voulez voir un lave-vaisselle avec ça? Ben là, c'est le moins cher, par exemple. Lui, là, c'est le Bosch. Il y a eu un peintre qui s'appelait Bosch. Magnifique peinture, d'ailleurs. Mais là, on est rendu dans le lave-vaisselle.
Oui.
Lui, il est indétrônable. Ce modèle fait partie des recommandations depuis plusieurs années. Et c'est l'un des rares appareils vendus, bon, à moins de 1 000 $ parmi nos meilleurs choix. Il offre une meilleure performance que bien des lave-vaisselles coûtant parfois jusqu'à 2 300 $.
Quand même.
Oui.
Là-dessus, je vais être obligé de couper de votre poésie électromagnétique, je sais pas, parce que le temps s'est écoulé.
Ben oui, ça passe vite. Hein.
Mais j'aimerais qu'on reprenne ça dès la semaine prochaine avec quelques surprises que vous nous concoctez.
Pour le plus grand plaisir.
Passez une belle semaine. Au revoir.
À vous aussi.
Au revoir.
Dans tes grands yeux noirs, je me suis perdue. J'attends un regard, le cœur suspendu. Je t'aime tellement fort, toi qui me fais peur. Est-ce un mauvais sort ou la mauvaise heure? Et autour de nous chantent les tziganes. Tout le monde s'en fout, s'enivre au champagne. Dans tes beaux yeux noirs, je sens mon amour et mon désespoir. Alors chant et sourd. Je perds la raison à chercher tes bras brûlant de passion. Viens embrasse-moi de tes grands yeux noirs. L'étrange lumière a nimbé le soir de tous les mystères.
Pamplemousse qui chantait Les yeux noirs de Django Reinhardt.
Alors, nous enchaînons avec Marcel Dugas. Bonjour, Marcel Dugas.
Bonjour.
Alors, aujourd'hui, on s'en va en Espagne pendant cette période de guerre civile et vous allez nous parler plus particulièrement du bombardement d'une ville qui s'appelle Guernica.
Tout à fait. La ville de Guernica a été bombardée il y a 85 ans, cette semaine, en fait le 26 avril. C'est une attaque d'une grande brutalité sur une ville sans défense. C'est un crime de guerre, selon la plupart des observateurs. Mais ce n'était pas le premier bombardement aérien de la guerre civile espagnole. Et il y a beaucoup d'autres villes d'Europe qui ont été attaquées du haut des airs pendant la décennie qui a suivi. On est à quelques mois du début de la Seconde Guerre mondiale. Mais si on se rappelle du bombardement de Guernica, c'est d'abord et avant tout parce qu'il a été immortalisé par une des grandes œuvres d'art du 20e siècle, la toile du même nom du peintre espagnol Pablo Picasso. Je vais y revenir un peu plus tard. Avril 1937, vous l'avez dit, l'Espagne se trouve embourbée dans une guerre civile depuis l'été précédent. Au début de la décennie, on avait tassé le roi, proclamé la République, et les élections de 1936 ont vu une coalition de partis de gauche être portée au pouvoir. Et en juillet 1936, l'armée a tenté un coup d'État qui n'a pas fonctionné, on n'a pas renversé le gouvernement, mais n'a pas échoué non plus. Le mouvement putschiste n'a pas été écrasé, on n'a pas emprisonné les leaders du mouvement, et ce qui devait être une action rapide des militaires se transforme en guerre civile qui oppose les nationalistes rebelles, la droite, l'extrême droite, l'armée, qui vont vite se rallier autour du général Francisco Franco, et les républicains, donc tout ce qui tend plutôt vers la gauche et veut maintenir le gouvernement en place. La guerre va très vite dépasser les frontières de l'Espagne, et alors que les démocraties, la France et l'Angleterre, vont décider de rester sur les lignes de touche, l'Italie fasciste et l'Allemagne nazie vont prendre une part active dans le conflit. L'Allemagne, tout particulièrement, a décidé de donner un coup de pouce aux nationalistes, d'une part parce qu'on redoutait que l'Espagne, qui avait voté à gauche, ne vire carrément dans le camp communiste, et d'autre part, on voyait là une belle opportunité de tester notre armement et de travailler sur nos tactiques militaires en vue de la guerre qu'on préparait. Au printemps 1937, les nationalistes lancent une grande offensive dans le nord du pays, notamment pour éliminer la résistance du pays basque. Les Basques, en tant que groupe de population, n'étaient pas nécessairement particulièrement à gauche, politiquement ou socialement, mais le gouvernement en place avait promis plus d'autonomie à la région. C'est ce qui explique qu'on avait rejoint le camp républicain. Guernica. On l'entend souvent prononcer Guernica, d'ailleurs. Ça se prononce vraiment Guernica.
Oui, effectivement. C'est bien de nous rappeler à l'ordre parce qu'il faut bien dire Guernica.
Voilà, exactement. C'était une ville du Pays Basque, donc dans le nord-est de l'Espagne. Au moment de l'attaque, la ville se trouve à une trentaine de kilomètres du front entre les armées. On ne voulait donc pas bombarder pour déloger des combattants pro-républicains. Il n'y a pas d'objectif militaire évident dans la ville, mais on jugeait que c'était un nœud de communication important sur la route vers la ville de Bilbao, le plus grand centre du Pays Basque. Et l'objectif officiel, c'était de bombarder les routes et un pont qui mène à Guernica pour couper la possibilité de retraite des combattants du camp républicain. Mais à l'époque, l'aviation est encore assez balbutiement. Il y avait eu des combats aériens pendant la Grande Guerre de 1914-18, mais le bombardement, c'était encore assez nouveau. Et encore aujourd'hui, avec les appareils de haute technologie dont on dispose, les drones guidés à distance et le reste, il y a un fort taux d'erreur dans les bombardements, en guillemets, ciblés que l'on mène. Alors imaginez en 1937, alors que les avions laissaient tomber leurs bombes, souvent alors qu'ils se trouvaient à des milliers de mètres dans les airs, on avait une idée générale d'où ça allait tomber. Mais il fallait être très chanceux pour atteindre un objectif précis, comme par exemple un pont. Et si on y parvenait, habituellement, c'est qu'on avait rasé tout le secteur environnant pour réussir à atteindre l'objectif. Donc, le 26 avril 1937, vers 16h30, l'alarme retentit à Guernica, c'est une ville d'environ 5000 habitants, des avions ennemis approchent. La ville ne disposait pas de défense antiaérienne, on n'a pas d'avions à envoyer pour confronter les assaillants. Il faut se mettre à l'abri du mieux qu'on peut et attendre que ce soit terminé. Le bombardement de Guernica a été mené conjointement par des avions italiens et des avions allemands par vagues successives sur une période d'environ 3 heures. Et si les ordres officiels de l'aviation italienne disaient qu'il fallait éviter de bombarder la ville, on ne semblait pas avoir reçu le même genre de directive au sein de la Légion Condor, l'unité militaire allemande qui a servi pendant la guerre d'Espagne. Et en plus de larguer une quantité de bombes conventionnelles qui semble démesurée pour atteindre l'objectif officiel, on a aussi laissé tomber sur la ville une grande quantité de bombes incendiaires. Maintenant, je ne suis pas expert en explosifs, mais quand on veut détruire des routes et un pont, à moins que ce soit un pont de bois, les bombes incendiaires, ça ne semble pas être le meilleur choix. Et c'est sans parler du fait que, comme on attaquait par vagues successives, les dernières vagues de bombardiers ne voyaient pas la ville qui était enveloppée par la fumée, donc ils tiraient à l'aveugle. Le bombardement a allumé plusieurs incendies. Guernica a brûlé jusqu'au lendemain. On estime que 70 % des édifices de la ville ont été détruits par les bombardements et par les incendies qui ont suivi.
Et sûrement de nombreuses victimes aussi.
Il y a eu beaucoup de victimes, mais c'est compliqué, comme ce l'est très souvent, établir un bilan. Sur le moment, les autorités basques parlaient de 1600 morts et près de 900 blessés. Ça a été le chiffre qu'on a utilisé pendant des années pour parler des événements de Guernica. Il semble bien que c'est une nette exagération à mettre, entre autres, sur le compte de la propagande de guerre. Les estimations plus récentes font généralement état d'entre 170 et 300 morts. C'est énorme.
Je m'excuse, vous nous avez parlé de 5000 habitants, n'est-ce pas?
Oui. Tout à fait. Et il y avait aussi, il y a une histoire qui n'est pas claire. On disait que c'était jour de marché à Guernica, que les gens des villages environnants étaient venus vendre leurs produits au village, mais c'est pas clair s'il y avait un marché ou non cette journée-là. Donc, il se pourrait qu'il y ait eu beaucoup de gens de l'extérieur qui étaient en ville, mais même après toutes ces années, on a encore de la difficulté à déterminer combien il pouvait y avoir de gens dans la ville, mais sur une ville, effectivement, qui avait une population là, standard d'environ 5000 personnes, on compterait entre 170 et 300 décès, et c'est énorme, on s'entend. Mais ce n'est pas nécessairement le genre de bilan qui va faire qu'un acte de guerre va passer à l'histoire, et je peux vous citer un exemple. La ville de Durango, également au Pays Basque, avait été bombardée quelques semaines plus tôt, et le bilan était très similaire à celui de Guernica. Mais la différence entre un raid dont on parle encore 85 ans plus tard et un autre qui a sombré dans l'oubli tient en bonne partie à une commande que le gouvernement républicain avait passée à un des plus éminents fils de la patrie à ce moment-là, le peintre Pablo Picasso. On lui avait demandé de produire une œuvre qu'on pourrait exposer au pavillon espagnol à l'exposition universelle tenue à Paris cette année-là. Et suite au bombardement de Guernica, on lui suggère d'en faire le sujet de son œuvre et Picasso, qui n'était pas très inspiré jusque-là, en 35 jours, crée une œuvre monumentale de 3 mètres de hauteur par 7 mètres de largeur qui deviendra un de ses chefs-d'œuvre. Et il a dit de Guernica que ça exprimait sa haine de la caste militaire qui a fait sombrer l'Espagne dans un océan de souffrance et de mort. Et évidemment, c'est une toile excessivement célèbre et qui n'a jamais été exposée en Espagne avant 1981. Picasso avait dit « Je refuse que la toile se trouve en Espagne tant et aussi longtemps que la démocratie ne sera pas restaurée dans le pays. » Ce qu'il faut savoir, c'est que le camp nationaliste a remporté la guerre civile et le général Francisco Franco a gouverné le pays de manière dictatoriale jusqu'en 1975. Ceci dit, puis je veux terminer là-dessus.
Oui, c'est ça, il faudra arriver à la conclusion, effectivement, c'est fascinant, mais le temps.
Oui, voilà, il y a une histoire qui circule à propos de l'œuvre et son créateur, et en général, il faut toujours faire preuve de circonspection quand il est question de citations historiques de grands personnages, mais je me permets dans ce cas-ci. Alors que Picasso vivait à Paris pendant l'occupation de la ville par les Allemands entre 1940 et 1944, on raconte qu'un officier allemand lui aurait demandé à propos de la toile Guernica, « C'est vous qui avez fait ça ?» Et Picasso lui aurait répondu, « Non, c'est vous, vous étant ici l'armée allemande. » Et la plupart de ces citations historiques-là qu'on rapporte dans les pages roses du dictionnaire ou peu importe, ça n'a pas été dit tel qu'on les rapporte. Mais dans ce cas-ci, j'aimerais vraiment croire que c'est vrai parce que c'est une réplique tellement parfaite, tellement une bonne manière de fermer le clapet à un officier allemand. J'espère qu'il l'a dit réellement, même si c'est probablement pas arrivé.
Merci beaucoup, Marcel Dugas, et merci aussi de nous avoir expliqué un peu ce qui est derrière cette toile magnifique de Picasso, hurlante de douleur, mais qui est quand même un chef-d'œuvre. Alors merci et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Alors, je vous parle d'une marche de sensibilisation à l'autisme qui va se tenir ce samedi 30 avril. En fait, cette marche, elle vise à encourager et à soutenir les personnes autistes et leurs familles. Et ça vient clôturer le mois de l'autisme au Québec. Donc, je donne les détails de cet événement. Le samedi 30 avril 2022, le rassemblement se fera à la Place du Canada. Alors, c'est Coinpile et de la Gauchetière à 12h30. Il y aura la présence du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, M. Lionel Carman, ainsi que la présence de la présidente d'Autisme Montréal, Mme Carmen Lahaie. Donc, c'est un rendez-vous et comme la température sera à son meilleur.
Ça va être une belle marche.
Ça, ça va être une très, très belle marche. Je nous amène maintenant dans le bas du fleuve à Rimouski, en fait, pour une nouvelle qui est parue dans la presse coopérative des Basques, l'Horizon, qui annonce une nouvelle cohorte, deux nouvelles cohortes en trouble du spectre de l'autisme qui vont s'ouvrir à l'Université du Québec à Montréal, à Rimouski, excusez. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que pour la première fois, il y aura de ce certificat qui sera offert à Rivière-du-Loup à l'automne 2022 et ensuite à l'hiver 2023 à Rimouski. Ces certificats, ils s'adressent à des personnes qui sont vraiment en contact avec des gens qui sont atteints d'autisme et en même temps, ils visent à vraiment répondre à des besoins du milieu. Alors, si on veut s'inscrire, on va sur le site de l'UQAR avec / formation continue.
Alors, au retour, j'interview Francine dans sa chronique technologie et on va parler de motricité avec Moelle Épinière et Motricité Québec.
Vous écoutez Au quotidien, 5e édition, avec Francine Forgette et Yvan Deslauriers.
Et Francine, vous m'avez stupéfait ce matin en préparant l'émission. Vous avez mentionné qu'il pourrait y avoir un plafond au nombre d'utilisateurs d'Internet et j'ai jamais passé proche de penser qu'il pouvait avoir une limite.
En fait, cette question-là, on la pose aujourd'hui dans la section techno de la presse Affaires. On rapporte un article du New York Times signé par Shira Ovid qui pose la question « Y a-t-il un plafond d'utilisateurs de l'Internet? » Et pourquoi on se pose cette question-ci? Ben, il y a toujours des contraintes, je dirais, économiques derrière toute cette industrie du numérique. C'est, on a vu cette semaine et les semaines antérieures à la bourse, il y a eu des baisses qui ont été liées, entre autres, chez Netflix à la diminution du nombre
d'abonnés,
c'est ça. Et on dit, ben le nombre d'utilisateurs diminue et c'est la même chose qui se produit chez Facebook depuis quelques années. On dit même, à un moment donné, Facebook n'est plus hot. C'est pas tout à fait vrai, mais il reste que c'est moins important en nombre que ça l'a déjà été.
Les jeunes chez moi, les jeunes, c'est mes jeunes adultes, là, ils disent que Facebook, c'est pour les vieux.
Oui. Oui, oui, la clientèle vieillit, mais en fait, c'est le défi des outils numériques de toujours arriver à conserver leur clientèle. Et chez Netflix, on pourrait dire, ben c'est parce qu'il y a tellement d'offres maintenant, mais il n'y a pas juste ça, c'est que des fois, l'accès à Internet, et c'est là que les chiffres sont intéressants. Ici, évidemment, au Québec, là, si on regarde les derniers net tendances, au moins 90 % de la population a un lien quelconque Internet, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, on rapporte que mondialement, il y a 4 personnes sur 10 dans le monde, donc 3 milliards de personnes qui n'utilisent pas l'Internet à la maison ou sur leur téléphone. Et ça, c'est des estimations qui ont été faites par la Banque mondiale des Nations unies. Dans certains pays, les pays les plus peuplés du monde, le Pakistan, le Bangladesh, le Nigeria, mais il y a une majorité de personnes qui ne sont pas connectées. Dans d'autres, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, ça peut être lié à des formes de censure. Et le marché de la Chine est extrêmement important en matière de services numériques, mais on sait ce qui se passe, c'est que la Chine ne permet pas l'accès à ses citoyens à des services comme Netflix, par exemple. En Inde, 1,4 milliard d'habitants de l'Inde utilisent l'Internet. C'est important. Mais en fait, ils l'utilisent de façon sporadique, pas nécessairement aussi de façon, aussi effrénée que nous. On en fait une consommation qui est vraiment quotidienne. Selon la Banque mondiale et les Nations unies qui sont derrière ces chiffres, Toute personne qui s'est connectée au moins une fois est considérée comme un utilisateur de l'Internet au cours des 3 derniers mois. Mais c'est sûr que quand on regarde, justement, dans certains pays, c'est à peu près ça. L'utilisation sur une base de quelques mois, elle est peu importante par rapport à ce qu'on connaît. On dit qu'on entre dans une période où la croissance facile est terminée pour de nombreuses entreprises prospères. Et pour continuer à toucher davantage de personnes, elles devront peut-être penser différemment aux milliards de personnes qui doivent être encore être connectées. Donc, il y a de l'ouvrage à faire pour les Netflix, Google et autres de ce monde.
Mais je pense aussi que peut-être que les coûts publicitaires vont peut-être aussi avoir à évoluer si ces compagnies-là veulent croître sans nécessairement augmenter de façon importante le nombre d'utilisateurs.
Du côté de Netflix, on voit qu'on y songe sérieusement, qu'on offrira probablement des abonnements moins chers, mais avec publicité. On va créer des catégories d'abonnements, ça s'en vient. Maintenant, est-ce que ça aura un effet pervers? C'est très délicat, hein, ces questions-là, parce que si Netflix le fait, moi, je me pars une compagnie et je dis, il n'y en aura pas.
Oui.
C'est un monde.
Tout à fait.
Et ça, le problème, c'est que ça a des influences économiques extrêmement importantes, parce qu'on voit justement quand les résultats de ces compagnies ne sont pas à la hauteur, les fluctuations boursières sont importantes. Je vous parle de nouvelles qui n'en est pas, vous allez probablement me dire, mais Amazon Alexa espionne vos conversations pour vous inonder de pubs ciblées. Alors, c'est le titre d'un article qui vient tout juste d'être relayé par Bruno Guglielminetti sur son compte Twitter, et ça a été publié sur PhoneAndroid. C'est intéressant parce que c'est plusieurs universités américaines qui se sont affiliées ensemble pour publier cette étude sur Alexa, qui est l'assistant vocal d'Amazon. Et après leur rapport, ce géant-là du e-commerce utilise les données vocales de ses différents appareils pour diffuser des publicités ciblées sur ses propres plateformes et sur le web.
Comme ça, Alexa est peut-être pas fine?
Bon, écoutez, par le passé, là, je sais pas, parce que je sais que des fois, vous allez à des endroits où il y a Alexa.
Oui, c'est ça.
C'est pas la première fois. Hein. On le sait que nos conversations étaient écoutées. Il y a eu vraiment des preuves qui ont été apportées. Des années plus tard, après qu'on ait parlé de ces premières écoutes, évidemment, on s'est dit qu'il y avait, toujours moyen, puis que c'était effacé, puis qu'on ne compilait pas tout ça. Mais ce qu'on sait, c'est que dans cette étude, c'est que les données, comme elles sont très demandées, alors évidemment, on a tendance à garder ces collectes de données vocales qui ont été transmises par Alexa. Alors, tout ce qu'on va expérimenter si on fait un achat sur Amazon ou si on demande une chanson par le biais d'Amazon Music, bien, ça va, si on demande à Alexa de commander, c'est des choses, des serviettes de papier, des choses comme celle-là, bien, ça va rester. Et à ce moment-là, bien, ça va nous permettre, entre guillemets, de peut-être avoir...
De recevoir.
Oui, mais c'est ça, d'avoir un choix sans qu'on fasse trop de recherches et tout. C'est toujours pavé de bonnes intentions, mais qu'on voit que... De toute façon, je pense qu'il faut être un peu naïf quand on utilise quel que soit le moyen numérique, de penser qu'il n'y a aucune trace qui est laissée quelque part. Et voilà pourquoi il faut toujours être prudent. Dans tout ce qu'on fait nous-mêmes au micro aujourd'hui, soyons prudents.
Oui,
soyons
tout prudents. À fait. Mais je ne suis pas contre le fait que si je fais une recherche, par exemple, pour acheter une voiture ou louer un endroit à l'extérieur, de recevoir des publicités autour de ce sujet-là à ce moment-là, je ne suis pas contre parce que ça me permet de faire des comparaisons puis de faire un meilleur choix. Maintenant, ça fait partie un peu de l'entente qu'on a en utilisant ces outils-là. Mais qu'Alexa, je sais pas, j'ai un petit frisson là.
Parce que là, justement, ce qu'il y a de danger dans tout ça, c'est que si on vous donne ça de façon aléatoire, cette information, mais quand vous dites « je cherche une voiture » puis la pub arrive, moi, je trouve que c'est un petit peu inquiétant.
OK. OK. Tout à fait. Alors, est-ce que vous aviez terminé?
Oui!
Je creuse et je sens de toutes mes rides tous les silences de la ville. J'avoue, j'étais cherché un peu. Je fuis les angles morts et je souris dans le miroir pour mes amis. J'y mets tous ceux qui ne voient rien, qui ne voient rien. Je voudrais me croire amoureuse, je ne serai plus une fille à porter.
Une autre collaboration, un autre duo, c'était Ariane Roy et Louane Cassidy qui chantaient « Fille à porter ».
Merci beaucoup d'embarquer dans notre jeu des duos. Maintenant, on s'en va du côté de Moelle Épinière et Motricité Québec. La mission de la Fondation, c'est d'améliorer la santé et la qualité de vie des personnes ayant une lésion à la moelle épinière, ainsi que leur intégration sociale et professionnelle. Elle encourage la prévention et les efforts menant à de meilleurs soins et à la guérison des blessures médulaires. La Fondation soutient également la recherche scientifique. Alors, une fois par mois, on va parler avec quelqu'un de cette Fondation. Et aujourd'hui, je parle avec Mme Vanessa Paré. Je sais qu'il n'y aura pas d'activité spécifique parce qu'on s'est parlé auparavant. En fin de semaine, mais il y a quelque chose qui s'en vient cette semaine, n'est-ce pas, Mme Paré?
Effectivement, M. Deslauriers, bonjour.
Bonjour.
Donc, bien la semaine, juste peut-être apporter une petite précision. Donc, il existe à la fois l'Association Moelle épinière et motricité Québec et la Fondation. Ce sont vraiment comme deux entités distinctes et dont les missions se rejoignent et se complètent, évidemment. Donc, je voulais apporter cette petite précision-là. Ici, moi, je travaille du côté de l'association.
Allez-y.
Donc, c'est nous qui organisons toutes ces belles activités. Mm-hmm. Et donc, pour répondre à votre question, effectivement, la semaine prochaine, on a une petite activité qui s'en vient. C'est notre sixième rencontre dans le cadre des cafés virtuels. Ça, c'est une activité, dans le fond, qui a été mise sur pied en pleine cinquième vague de COVID pour permettre à nos membres, c'est-à-dire les personnes qui ont une lésion à la moelle épinière et les personnes aussi qui ont d'autres types de limitations fonctionnelles, de pouvoir échanger, se rencontrer, donc garder contact. Puis, chacune des rencontres, dans le fond, est structurée autour d'un thème. Donc, ça permet aux gens à la fois de partager leur vécu, mais aussi d'échanger des trucs, des astuces, puis il se développe une belle solidarité, je vous dirais, dans ces rencontres-là. Donc, jeudi prochain, 5 mai, de 14h à 15h sur Zoom, c'est ouvert à toute personne désireuse de s'inscrire, donc simplement nous contacter à Moelle épinière et Motricité Québec, ça va nous faire plaisir de vous recevoir.
Si je comprends bien, c'est une activité qui a été créée pendant la période de la pandémie, qui est presque fini, mais pas tout à fait. Est-ce que je comprends que vous avez trouvé cette activité-là intéressante au point de la prolonger même après la pandémie?
Oui, tout à fait. Il s'est vraiment créé un petit noyau d'habitués, donc de semaine en semaine. Je dirais qu'il y a grosso modo une vingtaine de personnes qui participent de semaine en semaine. En fait, c'est aux deux ou trois semaines que ça a lieu.
Okay.
Et on a l'intention, dans le fond, on va prendre une pause pour la saison estivale parce qu'évidemment, les gens aiment profiter du plein air, sortir, voir des gens. Puis on compte remettre sur pied l'activité à partir d'octobre ou de novembre, là, pendant toute la saison froide, là, donc la partie un peu moche de l'automne là, jusqu'au printemps l'an prochain.
Donc, est-ce que ça serait la dernière activité de ce type-là cette semaine ou il y en aura une autre avant le début de l'été?
Ce sera la dernière de la saison. Et d'ailleurs, le thème de la discussion, j'en ai pas parlé, c'est on se prépare à l'été. Fait qu'on vraiment, on s'en va vers l'été. Ça, on va parler autant de sujets légers comme de sport adapté. On va parler aussi de, bien évidemment, comment gérer les inconvénients de l'été, la chaleur. Donc, on suit vraiment le fil de la discussion. Puis ce sont les parties qui apporte le contenu finalement.
Est-ce qu'il y a des experts du genre, est-ce qu'on suggère des endroits où aller parce que ces endroits-là sont bien adaptés pour vos membres, par exemple?
Oui, c'est ça se prête bien dans ce cadre-là, mais ce sont surtout les participants qui partagent leur expérience. Donc, c'est vraiment, c'est comment dire, le savoir expérientiel des gens là, qui est mis à l'honneur et non, là, on n'invite pas d'experts, par exemple, à participer. C'est vraiment durant la discussion là, que ces contenus-là sont abordés. Puis je vous dirais qu'il y a plein de choses intéressantes qui ressortent que moi, j'ignorais. Moi-même, je suis pas une personne vivant avec une limitation fonctionnelle, donc je suis un peu comme une facilitatrice.
Mm-hmm.
Puis, il y a des gens qui ont découvert des produits spécifiques qui ont vraiment permis d'améliorer leur qualité de vie, d'autres personnes. Il y a vraiment un échange là, qui se fait.
Avant de créer ces rencontres-là par Zoom, est-ce qu'il y avait des rencontres en présence où les gens faisaient ce même type d'échange ou c'est quelque chose qui a été créé et puis finalement donne des bons résultats?
Je dirais un peu de tout dans le sens qu'il y avait déjà des rencontres, peut-être pas de façon systématique. Donc, c'était vraiment plus des rencontres ponctuelles. Nous, il faut dire qu'on est présent aussi dans les centres de réadaptation, donc auprès des patients qui sont ensemble. Parfois, il y avait ce qu'on appelle des groupes de pairs ou des groupes de connaissances là, où les gens abordaient certaines thématiques. Puis, ça nous arrivait à l'occasion d'organiser des groupes, mais c'était plutôt, je dirais, réservé aux gens d'une région donnée. Donc, par exemple, nos membres dans la région de Québec ou de Montréal.
Mm-hmm.
Donc, ce que ça permet, c'est de rejoindre, en fait, tout le monde. Là. Ça facilite l'accès de le faire virtuellement.
Oui, puis j'imagine que ça permet aussi des échanges plus vastes, plus larges que seulement à l'intérieur d'une région donnée.
Ah oui, vraiment. Ça permet. On a des gens du lac Saint-Jean, c'est pour vous dire, des gens de Montréal, de l'Abitibi, de la Beauce. Donc, c'est vraiment de l'esprit. C'est très, très large, puis c'est le fun dans un sens pour ça.
Donc, ça se passe jeudi, le 5 mai. C'est en Zoom. On peut encore s'inscrire. Ça va être à quelle heure? J'ai pas noté.
De 14h à 15h.
De 14h à 15h. Alors, j'invite les gens qui sont intéressés au sujet de comment se préparer à cet été, de peut-être utiliser ce forum pour faire des échanges. Ça m'a l'air vraiment intéressant. Et on se reparle, Madame Paré, dans un mois. Et là, vous avez de grosses activités à nous annoncer à ce moment-là.
Là, on a du stock, effectivement. Les Journées québécoises des lésions médulaires et la programmation spéciale dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées. On a très, très hâte de... On lance la programmation, d'ailleurs, lundi prochain. Puis j'ai très hâte de vous en parler.
Parfait. Alors, c'est un rendez-vous dans un mois. Merci beaucoup.
À dans un mois. Merci, M. Deslauriers. Bonne journée.
Au revoir.
Au revoir.
Un point de sable dans les poumons. C'est comme ça, c'est ainsi fait. Le monde est beau, le monde est laid. C'est comme ça, c'est imparfait. Le monde est beau, Pierre.
Marie-Annick Lépine, Le monde est beau, pilet.
Je sais pas pourquoi je me sens visé. Alors, dans ce dernier segment, Francine, on va parler de la fin de semaine qui s'annonce tout bientôt. Et on commence avec qu'est-ce que tu vas regarder, toi, pour la fin de semaine?
J'ai tellement d'affaires, mais je vais essayer de résumer ça. Moi, je commencerai par aller faire un tour dehors, prendre une belle marche. Dimanche, et pourquoi pas s'arrêter à un brunch.
Hein? Oh oui, oui, oui.
Aller bruncher quelque part. J'ai un endroit à vous suggérer que moi j'ai redécouvert dernièrement qui s'appelle Maison, M-E-S-O-N. C'est dans Villeray.
C'est avec des tapas, me semble.
345 rue Villeray. Mais en fait, il n'y a pas de tapas là. C'est son cousin ou je ne sais pas quoi qui s'appelle Tapeo.
Okay.
Chez Maison, on est vraiment dans le brunch. Et oui, mais c'est espagnol aussi, puisqu'on a parlé d'Espagne aujourd'hui.
Bien sûr.
Et c'est intéressant. C'est un peu bruyant, peut-être. Il y a beaucoup de monde. Alors, ceux qui ne sont pas encore à l'aise à sortir... sans le masque, ben c'est peut-être pas l'endroit idéal, mais autrement, c'est vraiment bien, c'est familial. Et c'est quand même assez, je trouve que c'est quand même des prix qui sont intéressants, entre 10 $ et 22 $ à peu près pour les plats principaux, mais c'est un brunch, donc c'est quand même... On sort de là et on est prêt à poursuivre notre randonnée par la suite.
Puis justement, pour parler de randonnée, ça risque d'être la première fin de semaine de randonnée à vélo. En tout cas, le mien, il m'en parle. Donc, on va probablement aller faire un peu de kilométrage. Ça va sentir le barbecue en fin de semaine, probablement, soit sur l'heure du dîner, sûrement sur l'heure du souper.
Et... Probablement, hein? Il va y avoir des petites effluves, sûrement.
Sûrement, et ça va être l'occasion, comme nous disait Serge Amenin, d'essayer quelques gin tonic sans alcool, peut-être.
Ou avec alcool, ça dépend.
Ou ça dépend
toujours, ça dépend. Alors oui, des activités extérieures, c'est très intéressant. J'ai aussi des choses à vous proposer à l'intérieur. Je vais revenir dans un premier temps brièvement. La semaine dernière, je vous ai parlé de Bébé Symphonique, là, qui a plusieurs projets là, en amont et en aval des concerts qui ont été donnés. Je vous ai parlé de l'espace Saint-Urbain dans la Place des Arts comme tel. J'y suis allée la semaine dernière. Deux choses. Premièrement, c'est extrêmement intéressant parce que vous pouvez écouter justement ce qu'on a donné en concert. Et c'est vraiment fascinant.
Oh.
Et en plus, il y a une belle exposition de photos des bébés et ça permet de découvrir avec les enfants différents instruments de musique. Petite réserve, n'y allez pas trop tôt. C'est jamais ouvert avant 11h ou midi. Alors, regardez-moi quand je suis passée
Pourquoi
la première 11
heures
fois.
11h ou midi?
Ben, c'est ça dépend des jours, là. Et, allez voir, parce qu'il y avait des parents qui faisaient le corridor avec les enfants, puis c'était un petit peu long. Je vous parle aussi sur le plan, toujours art, mais cette fois visuel, de Blouin Division, qui est situé dans l'Arsenal. Arsenal Art Contemporain, c'est aussi une activité gratuite, tout comme Bébé Symphonique. L'Arsenal Art Contemporain, c'est 2020 rue William, 2020, qu'on doit dire en français, excusez-moi.
C'est un très bel endroit.
Très bel endroit, c'est ça. Et la section Blouin Division, elle est gratuite, je vous le dis. Il y a deux expositions qui sont vraiment intéressantes, et celle de François Lacasse, qui travaille beaucoup avec les textures, et celle de Francine Savard, qui travaille avec des codes. En fait, elle reprend les couleurs de grands chefs-d'œuvre et elle, sur des fonds uniformes, jaunes par exemple, vous retrouvez des chiffres, et c'est tout. Et pour comprendre le tableau, vous devez vous référer à la charte de couleurs qui est juste à côté.
Oh.
Alors, par exemple, une œuvre de Nicolas Poussin qui a été faite à la fin du 16e siècle, pour vraiment comprendre comment elle a fait la reproduction, on doit travailler un peu. Alors, c'est amusant.
Oui,
c'est
vraiment,
amusant.
Vraiment beaucoup.
C'est vraiment de l'art contemporain, mais ça fait appel à de l'interaction, même s'il n'y a pas de support numérique technologique.
Fantastique. De mon côté, avec un barbecue, avec un gin tonic alcool ou sans alcool, c'est la fin de la saison de hockey. Alors, vous rassemblez avec des copains, des copines et vous commencez à faire votre réflexion pour les poules de la période éliminatoire. Donc, ça, c'est en fin de semaine. Il y a des films. Moi, il y a des films, on voit les bandes-annonces des fois quand on va voir un film. « Ah, j'ai hâte d'aller voir ça. » Puis là, on a la critique aujourd'hui. Par exemple, le film Eiffel, à propos de la construction de la tour Eiffel autour d'une histoire d'amour, ben ça a eu 3 étoiles dans la presse. Fait que je me dis, oh, peut-être, mais peut-être pas.
Ah, 3 étoiles, ouais, 3 étoiles, oui.
Il y a Noémie dit oui, mais c'est un sujet vraiment difficile sur la prostitution juvénile qui a eu 4 étoiles. Et il semble que ça, c'est vraiment quelque chose à faire. Et en soirée... s'il y a une série que vous voulez commencer, Le Temps des framboises, le concepteur, c'est Philippe Falardeau avec des textes de Florence Lompré et de Suzy Bouchard. C'est vraiment très, très bon. Moi, j'ai fait le deuxième épisode hier. C'est extraordinairement bon. Je vous le souligne. Pardon. On se dit un beau bonjour. Francine. On se revoit la semaine prochaine. On dit merci à Mathieu et dans une semaine.